Cet enregistrement a été réalisé par le logiciel. Votre PC prend la parole. L'enlèvement. L'enlèvement c'est le fait de monter dans les airs. La voix créatrice de Dieu les fait ressusciter de la poussière, ou alors, s'ils ne sont pas endormis, transforme leur corps jusque dans les atomes. C'est l'enlèvement. C'est le glorieux souper des noces de l'agneau et de son épouse. Lisons aujourd'hui la Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens 4. 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 16. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 18. Consolez-vous donc les uns, les autres par ces paroles. 5. Un pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 3. Quand les hommes diront, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière, et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. 1. Thessaloniciens 3. 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Je voudrais parler ici de l'enlèvement physique et non de l'enlèvement spirituel. L'enlèvement spirituel, c'est notre enlèvement après la réception du Saint-Esprit après notre baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est symbole d'ensevelissement et de résurrection, résurrection après la réception du Saint-Esprit. Romains 6, 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Éphésiens 2, 6, il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Colossiens 2, 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lien avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. L'enlèvement physique ne peut se faire que par le baptême du Saint-Esprit qui dispose de la dynamique de la résurrection. Le baptême d'eau ne sauve pas, mais nous sommes par l'action du don du Saint-Esprit sauvés. Acte 2 v 39. L'enlèvement physique. Au cours de ce processus, votre corps est transformé et votre âme et votre esprit sont transportés vers le Seigneur Jésus-Christ qui descend. Mais les morts en Christ ressuscitent premièrement avec un corps glorifié et apparaissent aux vivants pendant 40 jours avant de monter avec les vivants dans le ciel à la rencontre de Jésus. 1 Corinthiens 15, 51 Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 52 En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. 55 Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Notons qu'un clin d'œil ici est égal à 40 jours. Le Seigneur Jésus sorti des tombeaux le jour de la résurrection a fait 40 jours sur terre avant son enlèvement. Et les morts ressuscités avec lui ont été vus des gens de la ville avant leur ascension. Cela est un type de notre enlèvement. Qui peut être enlevé? Pour être enlevé, il faut avoir le vêtement de noces. Ce vêtement est donné par les sept serviteurs de Dieu au cours des âges bibliques. Sept serviteurs et même huit. Le huitième est l'extension du septième. Michée 5, 5, 5, 4, c'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays, et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui sept pasteurs, et huit princes du peuple. Matthieu 22, 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. 4. Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » 5. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. 6. Et les autres, se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. 7. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et brûla leur ville. 8. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. 9. Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. 12. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. 13. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. L'homme qui a été jeté dehors était pratiquement entré dans la salle de festivité, mais est cependant jeté dehors, car il s'est confié dans ses bonnes œuvres, certainement qu'il était justifié, sanctifié et avait l'onction de Dieu, avec beaucoup de manifestations. Seulement il n'a pas reçu le message de son temps, qui au jour d'aujourd'hui est donné comme vêtement de noces par le très revend serviteur et prophète William Marion Branham, relayé par le Jésuet d'aujourd'hui le 8e messager terrestre. Le vêtement de noces est la parole par les semaines originales. Cet homme jeté dehors n'a pas droit à l'enlèvement, c'est un frère dénominationnel. Hébreux 11:5 c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Est un frère dénominationnel. Hébreux 11:5 c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. La condition de l'enlèvement, c'est la foi dans l'Évangile conformément à l'enseignement des apôtres. Enseignement restauré par le ministère de 17 anges terrestres et relayé par le 8e messager. 1 Corinthiens 15:1 Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, 2 et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Peut-on connaître les moments de l'enlèvement? Des citernes crevassées 64072-6, E. William.Marion. Branham. 13. Je ne sais pas à quel moment sera ma dernière heure sur cette terre. Aucun de nous ne le sait. Et aucun de nous ne sait quand il va venir. Il ne le sait même pas lui-même, d'après ses propres paroles. Il a dit que le Père seul sait quand il viendra. Le Fils lui-même ne sait pas quand il viendra, ce sera quand Dieu nous l'enverra de nouveau. Mais nous attendons ses venues. Et s'il ne vient pas dans ma génération, il se pourrait qu'il vienne dans la suivante. S'il ne vient pas dans celle-là, il viendra dans la suivante. Mais, moi, à ce que je vois, il ne reste pratiquement plus de temps. Vraiment, à mon avis, ça pourrait arriver d'une minute à l'autre. Or, ça ne veut pas dire. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez voir les cieux se transformer, et tout. Ce n'est pas de cette venue-là que je parle. Je parle de l'enlèvement. 14. Voyez-vous, il effectue 3 venues. Il est venu sous 3 noms de fils. Il est venu dans une trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Voyez-vous, tout ça, c'est le même Christ, le même Dieu, tout le temps. Maintenant, nous savons qu'il est venu produire 3 œuvres de la grâce, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Tout, en Dieu, s'accomplit par 3. 15. Et donc, il est venu, premièrement, pour acheter son épouse. Il vient, deuxièmement, pour un enlèvement, pour enlever son épouse. Il vient, troisièmement, avec son épouse, le roi et la reine, après, et c'est ce moment-là que bien des gens attendent, cette venue-là. Mais cette fois-ci, quand il viendra, presque personne, sauf ceux qui sont prêts, sauront quand il viendra. Des gens ne seront plus là, c'est tout. On ne saura pas ce qui leur est arrivé. Ils seront simplement enlevés, en un instant, et ils auront disparu, c'est tout. changer, en un instant, en un clin d'œil. Alors, tenez-vous simplement prêt à cela. Ce serait affreux, un matin, qu'un être cher ne soit plus là, que personne ne puisse le trouver. Ce serait dommage, n'est-ce pas, de savoir que c'est déjà passé, et que vous l'avez manqué. Alors, restez constamment dans la présence de Dieu. Quand le Seigneur Jésus viendra dans les airs pour prendre son épouse, il est évident que son épouse sait et saura quand il vient, 1 Thessaloniciens 5:1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 3. Quand les hommes diront, paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière, et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. L'épouse de Jésus-Christ ne sera pas surprise, elle connaîtra le jour de la venue du Seigneur. Voici ce que déclare le prophète Branham dans la brochure Christ et la révélation du mystère de Dieu français, page 11, Ewald Frank. Il n'a pas révélé comment il viendrait, ni quand il viendrait. Et il a très bien fait ainsi. Non. Il l'a montré ou révélé, dans chaque type qui se trouve dans la Bible. Élie, un type de l'enlèvement, peut bien nous éclairer. 2 Rois 2:1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. 2 Rois 2:2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. 2 Rois 2:3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée, et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. 2 Rois 2:4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. 2 Rois 2:5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée, et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel et à Jéricho savaient avec précision le jour de l'enlèvement de leur maître Élie. Toutefois, ils devaient ne pas divulguer l'information. De même nous saurons le jour, mais il importe de ne point divulguer l'information. Cette venue de Jésus-Christ pour prendre son épouse et l'épiphanie, apparition. Mais quand est-il du jour inconnu de Jésus lui-même? Matthieu 24:32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes en tant que Fils de l'homme, le prophète. Dans la génération qui a vu le figuier reverdir, c'est-à-dire la génération qui a vu la renaissance de la nation d'Israël, cette venue-là est appelée parousie, présence corporelle. C'est le 28 février 1963 à Tucson, Arizona que le Seigneur Jésus est descendu du ciel au travers de la constellation de sept anges. Son visage était clairement visible au sein du nuage mystérieux que ses anges avaient laissé dans le ciel. En ce moment exact, le prophète William Marion Branham était en train de recevoir l'épée du roi des rois, le troisième pull. Ce nuage est resté dans le ciel pendant 28 minutes, soit environ une demi-heure. Le prophète faisant un commentaire sur ce passage de Matthieu 24:33-36 établit une relation avec le passage d'Apocalypse chapitre 8, verset 1. 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. La fête de Trumpet, WMBRNHAM 42 inférieur. Alors, un jour, dans le canyon Sabino, Dieu m'a fait monter là-haut un matin de bonne heure, et j'étais là avec les mains en l'air, je priais, et une épée m'est arrivée dans les mains. Vous savez cela. Je me suis tenu là à la regarder, elle était aussi naturelle que ma main en ce moment, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et elle est restée là, avec une voix qui m'a dit, c'est l'épée du roi. Point ensuite, plus tard, quand l'ange du Seigneur a révélé ce qu'il en était, c'était la parole dans la main. Tout de suite, après cela, les anges du Seigneur sont apparus et m'ont parlé des sept trompettes, ou des sept sceaux, que je devais revenir ici à Jeffersonville pour prêcher les sept sceaux. Et, là, si jamais j'ai dit quelque chose qui était inspiré, c'était bien cela. Là, quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous, et la Bible est devenue une Bible nouvelle. C'est cela qu'elle s'est ouverte, pour révéler toutes les choses que les réformateurs, et tout avaient laissées de côté. C'était la révélation entière de Jésus-Christ, complètement nouvelle pour nous, mais parfaitement et exactement conforme à l'Écriture. C'était la parole, qui a toujours été. J'étais tellement inspiré et tellement conduit. 149 En effet, au septième sceau, il y a eu le silence. Personne ne savait. C'était la minute où l'heure où Christ allait venir comme il nous l'a révélé. Point supérieur. Reconnaître votre jour, et son message WMBRNHAM 29, maintenant remarquez encore, avant les sept sceaux, et je ne me doutais pas le moins du monde que c'est ce qu'il en serait. Ici, au tabernacle, il en a parlé, et il m'a envoyé à Tucson, en Arizona, vous annonçant à tout ce qui allait arriver. Et il y a des hommes ici présents aujourd'hui, qui étaient là, qui ont vu la chose arriver, exactement telle qu'elle avait été prédite ici, que cet ange allait venir. Ensuite les journaux ont diffusé cela, et les magazines, d'un bout à l'autre du pays, un mystérieux cercle de lumière sous la forme d'une pyramide exactement, comme je l'ai dessiné ici pour vous montrer. Celui-ci s'est élevé de l'endroit où se trouvaient ces anges, il est monté à une altitude de 30 000, 48 km d'été et mesurait 27 000, 43 km de large, ou bien à une altitude de 27 000, 43 km et mesurait 30 000, 48 km de large, je ne me rappelle plus lequel des deux. Et on l'a vu de partout, dans les États, juste au-dessus de Tucson, en Arizona, c'est exactement là que c'est arrivé, au même moment. Le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté de nouveau dans la chair, et le mystère de cette venue parousie n'était pas connu ni des anges, ni du Fils, seul le Père savait le jour où il reviendrait sur la terre dans un corps de chair pour accomplir la seconde partie de la prophétie d'Ésaïe. Ce corps de chair, le vase Jésus, était le corps de William Marion Branham, vase vil transformé en vase d'honneur. Dieu le Père a voulu par sa souveraineté en tant que Dieu Tout-Puissant maintenir ce jour secret. Sa fonction de Fils, Dieu puissant, ne pouvait pas savoir ce jour. Cela est le programme volontaire de Dieu selon son plan et sa grande souveraineté. Comprenez la souveraineté de Dieu. Dieu peut de manière expresse refouler son omniscience et son omnipotence pour se conduire comme un homme qui ne sait pas tout. Dans le jardin, dedans il dit, 9 mai l'Éternel, Dieu appela l'homme, et lui dit, où es-tu? Aujourd'hui cette écriture est accomplie WMBRNHAM mais vous remarquez ici, il a dit, à la fin de l'âge de l'Église, c'était devenu un tel gâchis qu'il serait de nouveau révélé en tant que Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme se révèle point comme ce mélange d'y était de circonstances. Et j'espère que ça ne vous échappera pas. Nous avons eu la révélation du Fils de Dieu, mais la dernière promesse qu'Abraham a eue avant que le Fils soit rendu, ou amené à l'existence, celui qui lui avait été promis. Avant que le Fils promis arrive, Dieu s'est manifesté là-bas à Sodome en tant que prophète, en tant qu'homme, dans la chair, Dieu. Elohim, comme j'ai entendu quelqu'un le dire, il y a un moment, alors que la divinité était en lui corporellement. Il était la plénitude. Elohim est la plénitude de la divinité, corporellement. Et nous remarquons, là, quand Lot a vu, quand Abraham l'a vu venir, il a dit, « Mon Seigneur. » Ils étaient trois. Et à Sodome, Lot en a vu deux. Et il a dit, « Mes seigneurs manquent de révélation. » Donc remarquez ce qui s'est passé ici, quand il est arrivé, comment il s'est fait connaître. Est-ce que nous ne pourrions pas, est-ce que je ne pourrais pas dire ceci, si seulement j'avais été vigilant, vous voyez, le frère a prophétisé quand il m'a dit ce qu'il a dit. Aujourd'hui, observez ce qu'il a fait tout de suite, après avoir lu ce passage de l'Écriture. Au jour où le Fils de l'homme, pas un homme, pas un être humain, le Fils de l'homme se révélera de nouveau parmi son peuple. Aujourd'hui, cette promesse-ci, de cette heure-ci dans laquelle nous vivons maintenant, est accomplie devant nos propres yeux. Il s'est tout de suite tourné vers l'assemblée, et avec 10 ou 12, quel qu'en soit le nombre parmi l'auditoire, des inconnus, il a fait exactement la même chose qu'il avait faite à Sodome. Aujourd'hui cette écriture a été manifestée devant vous. Elle a été confirmée devant vous. Alors, mon frère, ma sœur, délégué, prédicateur, quoi que nous soyons ici, enfants de Dieu, combien proches sommes-nous de sa venue? Alors, si maintenant, nous voyons l'écriture qu'il a promise, juste avant que le feu tombe à Sodome pour la brûler, et qu'il y a comparé ce jour-ci, et que nous voyons cette écriture s'accomplir en plein sous nos yeux, combien proches sommes-nous de la venue du Fils de Dieu? Alors, combien proche est la manifestation des Écritures, comme il l'a faite à travers Abraham, en montrant l'Église, en type, alors qu'il était la promesse à l'Église. Et maintenant nous voyons la semence naturelle d'Abraham, comme ils ont failli. Mais la semence royale d'Abraham, par la foi dans la parole promise, est en train d'être manifestée sur terre aujourd'hui. Nous sommes au temps de la fin, mon frère, mes sœurs. Nous sommes à la fin. Et nous n'avons pas un seul autre type. Je dois donner les Écritures en type, parce que je n'ai pas assez d'instructions pour faire ressortir les mots, et tout. Je fais un type. Mais si je vois dans les ombres, si je n'avais jamais vu ma main, et que je vois l'ombre, je saurais que j'ai 5 doigts. Et c'est comme ça que vous devez observer les types de l'Écriture de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que cela fait? Cela préfigure ceci. Et Jésus a dit que Sodome était la préfiguration du temps de la fin maintenant. Et les passages même de l'Écriture qui étaient promis à Sodome, les passages même de l'Écriture qui se sont produits à Sodome, dont Jésus a dit qu'il se répéterait de nouveau en ce jour-ci, c'est dévoilé en plein devant nous aujourd'hui. Les deux ailes de l'aigle. Jéhovah Dieu est représenté dans le livre de Psaume 91 comme un aigle, et les petits de l'aigle sont aussi des aiglons, donc des aigles. Un aigle est un oiseau disposant de 2 ailes qui le permettent de voler dans les airs. Le livre d'Apocalypse 12, v. 1 à 17 nous parle de la femme et du dragon rouge. La femme symbolise l'Église véritable couronnée des 12 étoiles, symbole de la doctrine des 12 apôtres, et le soleil au-dessus d'elle, symbole du Nouveau Testament, et enfin au-dessous d'elle, la lune, symbole de l'Ancien Testament. Ainsi donc l'Église véritable prend en compte la doctrine des 12 apôtres, et se tient dans toute la Bible. Elle est une Église qui travaille à enfanter un fils mâle, symbole de Jésus-Christ, qui doit être enfanté en nous. Cette Église est certainement l'Église épouse de Christ. Dans tous les âges de l'Église épouse, elle s'est vue être menacée par le dragon rouge, type du système papal, de la fausse Église qui est Babylone la Grande, l'Église catholique romaine. La scène décrite ici relate avec percutance les événements post-enlèvement. Le dragon rouge attaque la femme qui réussit à s'échapper avec les 2 ailes qui lui sont conférées. Apocalypse 12, v. 13-14. 13 Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. 14 Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Les 2 ailes ici sont les ailes de l'enlèvement, le message de l'enlèvement, et la puissance de la résurrection, ou la pluie de la première saison, et la pluie de l'arrière-saison. 1 Thessaloniciens 4, v. 16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns, les autres par ces paroles. Voir aussi la version Darby. 3 événements se produisent successivement pendant que Jésus vient pour l'enlèvement. Dans la brochure L'Enlèvement 65-1204, le prophète Bourama dit ceci. La première chose qui se produit, c'est son message qui appelle l'épouse à se rassembler. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort, celle qui mourut dans les autres âges. Ils sont enlevés ensemble, et la trompette les appelle à la fête dans le ciel. C'est cela qui arrive, mes amis. Lisez aussi Alinéa 75. Le message est proclamé par un porte-voix, le cri de commandement, le messager de Malachie 4, le prophète William Marion Graham. La voix de la résurrection est proclamée par le 8e messager terrestre, réveille l'épouse endormie. Et la trompette retentit pour enclencher la résurrection des morts, et le départ des vivants et des ressuscités. Ces 3 événements s'accomplissent pendant que Jésus-Christ descend du ciel. L'enlèvement est un long processus qui s'achève au son de la trompette. Depuis le 28 février 1965, nous sommes dans le processus de l'enlèvement. Le message de William Marion Branham Noah donnait les 2 ailes de l'enlèvement. L'une était complète et l'autre était potentielle. Or, pour être enlevé, il faut que nous ayons complètement les 2 ailes de l'enlèvement. Il est vrai que pendant le ministère de William Marion Branham, les 2 pluies. Puis de la première et de l'arrière-saison tombaient en même temps, parce que ceux qui se reposaient dans le Seigneur devaient avoir les 2 ailes de l'enlèvement. Toutefois la pluie MOUREH était le ministère typé du frère Branham de son vivant. La seconde pluie de l'arrière-saison est le ministère de William Branham, l'Africain 16, c'est-à-dire du huitième messager, le Josué homme d'aujourd'hui. Le huitième messager terrestre vient avec le ministère de la résurrection. Il rend cinétique la seconde aile potentielle de la résurrection avec le réveil de l'épouse, le ministère de l'épouse. Le huitième messager terrestre est celui qui conduit comme Josué ses frères Caleb, c'est-à-dire les Éphésiens 4, et les rois et reines dans la bataille finale. Apocalypse 12, V4b, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. 5. Elle enfanta un fils, qui doit être toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Notez bien que la femme enceinte enfante Jésus-Christ, le huitième messager céleste, Galates 81. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, qui se reflète sur la terre au travers du huitième messager terrestre. Le désir du diable cesse de détruire le huitième messager, mais il échouera, car le huitième messager terrestre sera enlevé vers le ciel. L'épouse aussi sera enlevée vers le ciel. Le désert ici n'a rien à voir avec un désert, brûlant de canicule et de sable, mais un lieu de repos et de bien-être, un lieu destiné à la fête des noces. La fête des noces est durée. La Bible de Dieu et les citations du prophète de l'heure nous font comprendre que la fête des noces durera 3 ans et demi, soit 1260 jours. Un temps égale une année, deux temps égale deux années, la moitié d'un temps égale un demi-année. Les mois dans le calendrier juif sont constitués de 30 jours. Donc 1260 jours égale 3 ans et un demi. Conclusion. L'épouse de Jésus-Christ est constituée des vierges folles et des vierges sages. Seules les vierges sages sont enlevées car ils ont la parole d'Elhure et le Saint-Esprit authentique. L'enlèvement jusqu'au jour où je vous écris n'a pas encore eu lieu. Quiconque vous dit le contraire est un menteur qui tire son fond de son père, le diable Satan. La Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Je crois que si l'enlèvement a eu lieu, les masses médias nous en parleraient, et certainement je verrai Bran se promener quelque part à Jeffersonville pendant les 40 jours du clin d'œil de Dieu. Faisant moi-même partie des vierges sages, je ne serai pas assis ici à vous écrire sur l'enlèvement, car le huitième messager terrestre sera bel et bien enlevé à la rencontre de son bien et Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, son seul mari et seul Dieu. De Timothée 2, V 16, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. 17 de ce nombre sont Hyménée et Philette, 18 qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Alors, il n'y a pas encore de résurrection des morts, pas encore d'enlèvement, pas encore de millénium, et pas encore d'éternité. Abidjan le 16 octobre 2017, à 21 h 41, prophète Kwame Nyesan Benjamin.